Bonjour à toi auditeur, tu viens de lancer un épisode de la saison 1 du podcast À Chaud. Ce message pour te prévenir de la qualité hasardeuse de cette saison, avec du matos pas top et le concept de s'enregistrer au milieu de la rue à l'arrache qui n'était pas top non plus. Bref, on a amélioré tout ça avec la saison 2, où là on est en studio avec un son correct. Enfin j'espère. Si tu es aventurier, et ça j'en doute pas, continue la lecture, parfois il peut y avoir des bonnes surprises. Allez, bonne écoute.
Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid.
Bon, ça va pas recommencer.
J'espère qu'on n'est pas gratté depuis quelques temps.
J'ai chaud, je me sens pas très bien.
Non, c'est le vin chaud. Ça va aller.
Si t'as ni chaud ni froid, eh ben t'appuies sur le bouton marqué médium.
Blake, choisissez un homme, prenez votre pactage.
J'espérais que ce serait une bonne journée. L'espoir... c'est dangereux.
Vous avez un frère au 2e bataillon.
Oui, mon général.
Ils vont tomber dans un piège. Vous avez ordre de leur remettre un message annulant l'assaut de demain matin.
Alors, comment penses-tu de ces 1h30, 1h45 totalement.
1h45, ouais.
Complètement épique.
Complètement épique, non, pas complètement épique, mais... Non, mais j'ai bien aimé.
Ouais.
Ah, si, on est 1h45, 1h50, 1h45, moi qui m'a pris.
Ouais.
Dès le début, en plus. Là, la scène des tranchées, on en parlera après, mais franchement, moi, ça a marché. Ça a marché pour moi.
Ça a marché.
Et toi, JV?
Moi, ça a moyennement marché. Alors, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup vu l'artifice du plan séquence.
Moi, je me suis laissé aller à ça, en fait.
C'est bien.
Comme je te disais, au début, un petit peu, tu fais attention. Et puis après, il y a un truc qui a fait que j'ai décroché. Et du coup, je me suis laissé porter par ce faux plan séquence de 1h45. Mais qui, je trouve, qui est bien travaillé, franchement.
Ah non, par contre, ça, c'est hallucinant. Ouais, ça, c'est vraiment dingue. Le travail...
Il y a des passages, des scènes, tu te dis, mais waouh.
Comment ils ont fait Et oui, mais tu vois, c'est ça le truc. C'est que moi, je me dis, comment ils ont fait? Et du coup, je sors à ces moments-là, même si...
Tu regardes le director's cut
le making of d'office, ça d'office, il faut absolument. Mais il y a des scènes vraiment de bravoure et l'histoire tient la route, je trouve.
Ouais, mais c'est une histoire classique.
C'est une histoire classique,
qui fait penser à un jeu
vidéo, comme on disait juste avant en sortant. Oui, il y avait un petit côté un peu... Moi, je trouve qu'il y a un côté un peu Skyrim, surtout au début où on entre comme ça dans le soubassement du colonel, du général.
Fait tout noir, il fait tout sombre.
Ça permet d'ailleurs un beau point de coupe.
Ouais. Ah merde, pas vu, moi, peu fait gaffe. Non, j'étais déjà parti en fait. C'est bon, quoi.
Mais après, ils sont bien faits. Et c'est vrai que ce côté jeu vidéo, ça m'a fait penser vraiment à un truc un peu à la. Ouais, Skyrim en fait.
Ouais.
Ce côté où on donne une mission, c'est très basique. C'est, ils doivent livrer un message à un point B.
Et c'est dès le début.
Et on. Mais moi, je trouve que moi, ce qui m'a dérangé, c'est le côté un peu Nolan, tu vois, de Sam Mendes. Il fait un peu du Nolan dans le traitement de l'action.
Ah, je voulais dire de l'image.
Non, l'image. Bah non, parce qu'il a un côté un peu dark, mais ça, il a toujours eu un petit peu ce côté réaliste. En fait, j'ai vu beaucoup de Soldat Ryan. J'ai vu beaucoup de Nolan aussi, avec Dunkerque. J'ai vu aussi un peu de Kubrick avec la façon dont il filme les tranchées, tu vois, dans Sentier de la gloire,
avec
Kirk Douglas.
Oui, il suit les personnages de dos et il passe devant.
Tout à fait, qui passe dans les tranchées.
Les personnages qui passent les uns après les autres. Dans les discussions, il y en a un qui repasse devant l'autre. Enfin, c'est tout le temps...
Qui se déplace.
Ça se déplace beaucoup, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de mouvements. Et pour avoir bien réussi à gérer ça, franchement...
Non, c'est chapeau.
C'est
vraiment grand chapeau.
On se doute qu'il y a dû avoir un travail de dingue derrière. Enfin, de préparation plutôt.
Et de post-prod aussi. Ouais. Tu sens qu'il y a énormément de... Tu sens que chaque plan est travaillé. Ouais. Et en fait, il y a des moments où la caméra, tu sens que... À chaque fois, c'est hyper précis, mais elle va chercher un cadre particulier pour t'amener quelque chose. Et en fait, c'est là où moi, ça m'a un peu sorti. Parce que du coup, je m'attendais... J'avais envie, mine de rien, de voir le contrepoint. L'autre angle et au niveau de la, je sais pas, un vrai montage en fait.
Je veux dire que toi, ce qui t'a dérangé, c'est cette impression un peu d'être pris par la main pendant l'histoire.
Voilà,
en fait,
tout à fait.
Tu suis aveuglément en fait
la vision de Sam Mendes en fait. Et du coup, je ne vois que la vision de Sam Mendes et je vois pas une vision d'une histoire.
En fait, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. C'est, merci, tu m'as donné vraiment le.
Excuse-moi, je te raconte l'histoire.
Hein, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont en quelle année?
Je crois que c'est pendant la guerre d'Irak. Genre, mais ils sont vraiment mal habillés, les mecs. Ils ont vraiment pas.
Putain, c'est des Anglais, quoi, merde.
En plus, c'est des Anglais. Qu'est-ce qu'ils foutent là?
À quoi que les Anglais étaient en Irak, mais toi, je sais pas.
Ouais, mais quand même. Ouais. Ils tranchaient, et puis ils sont en France, apparemment.
Ouais, c'est bizarre. Ça sent la Moselle.
Ouais, ouais.
Ça sent la terre calcaire de Moselle, hein, tout ça. Ça sent les Cuesta.
À un moment, ils parlent d'Arras. Je suis passé par Arras. Ça ressemble à ça. Hein.
C'est à, mon avis, c'est 1917, 6 avril 1917, donc c'est vers la fin de la guerre. Ouais. Donc il reste un an et demi à peu près. Et à mon avis, c'est le début de la déroute des Allemands.
Bah, c'est le début en fait de l'entrée en guerre des Américains, par contre.
Ouais, tout à fait. Ouais. Ah, ils n'arrivent pas plutôt vers avril, plutôt juin-septembre 17.
Bah, en tout
été
cas,
17, je crois.
Bah, ouais, mais dans ces cas-là, ça veut dire que c'est peut-être le début de la déclaration de guerre. Quoi. Et après, le temps que les troupes arrivent en masse, peut-être.
Ça aurait peut-être dû un peu regarder un peu.
J'ai un petit peu regardé, c'est pour ça que j'ai
d'accord,
dit que c'est vraiment
un début. Moi, je savais qu'ils venaient en 17, mais je pensais qu'ils venaient à l'été 17.
Mais du coup, oui.
Donc voilà, donc je suis.
Mais toi, un peu plus dérouté par rapport à ça.
En fait, c'est l'artifice, tu vois, qui me fait dire. Enfin, c'est de. Enfin,
c'est pas de. C'est clairement un film d'artifice, hein, de toute façon.
Tu vois, comme Birdman, enfin bon, on cite forcément Birdman, Iñárritu, qui.
C'est un film dont on va parler par rapport à son aspect technique, quoi. Enfin,
oui, mais et c'est ça qui est dommage.
Ce qu'il fait, quoi.
Ouais, mais je trouve ça que c'est dommage de s'arrêter que à ça, parce qu'il est bien plus que ça. Et je pense que s'il y avait un autre travail au niveau du montage, au niveau de la narration, de pas être bloqué sur ces deux personnages,
ouais,
et de les suivre tout au long de cette mission, de délivrer un message hyper crucial, mm-hmm, je pense que niveau émotionnel, j'aurais été peut-être plus pris dedans et moins sorti par les différents moments où je me dis ok, où est pris techniquement par ok, ce plan, je sais que forcément c'est une caméra libre.
Vas-y, je lance la caméra et tu cours vite, hein.
À des moments elle vole, tu sens qu'il y a un gros travail, tu vois, que c'est fait avec le système Movi, qui est un système qui
la scène sur la rivière. Moi, j'imagine que là par contre ça va être avec un câble, la scène de la sur le pont qui s'est écoulé.
D'ailleurs, le système Movi, c'est un système de caméra, enfin c'est un système de caméra, un gyroscope qui permet de stabiliser la caméra.
D'accord. Comme une sorte de steadicam.
Oui, c'est un steadicam amélioré et en fait beaucoup plus léger. Et notamment, alors je t'invite à regarder, il y a un bout du making of de The Raid 2. Le film indonésien. Non, The Raid 2.
Ah, The Raid 2. Ah, oh, putain, oui. J'ai pas vu
le film indonésien. En fait, il se passe la caméra. Comme la caméra est très mobile et légère, se passe la caméra de cadreur en cadreur. Et t'as un moment, une scène fantastique où la caméra passe à l'intérieur d'une bagnole. Et en fait, tu vois, t'as un cadreur qui est déguisé en fauteuil. Qui est déguisé en fauteuil de bagnole, qui récupère. Je t'invite vraiment à voir ça sur YouTube.
Ça se trouve sur YouTube.
Ouais, mais tape Making of The Raid 2. Et en fait, tu vois, je sens ces côtés. Bon, aussi parce que voilà, j'ai un petit pied de l'autre côté aussi. Ouais. Je sais comment ça fonctionne.
C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'avec
mon bagage.
Ouais, ton bagage.
Et donc du coup, c'est comme Birdman m'avait fait le même coup. Mm-hmm. Même si je pense que j'ai le niveau. Ah bah tiens.
Hey. Tiens.
On est en train d'aller au cinéma.
Eh ben écoute, nous on en revient.
J'ai pas encore vu Joker.
Ah putain, tu sors pas.
Ça va.
Oui, toi.
Ça va, ouais.
Interlude. Voilà, on a eu une petite interlude.
On a croisé des amis.
Voilà. Et donc voilà.
On a fini un petit peu pour la première partie dans notre avis.
Ouais, on va manger, mec.
On va
fumer en mangeant. Bon, on va. Non, mais par terre. Non. Discrètement. Ok, mec, Burger King, on commande et on reprend. Et voilà. On vient de sortir du Burger King.
Épargner le
bruit de succion, de mangeation.
Mais c'est vrai que dès la sortie, on le suit. Et lui, il est hyper motivé. L'acteur donc, qui joue le Caporal Blake.
Ouais, non, Caporal Blake, c'est le petit gros, on va dire.
Ouais, bah c'est lui qui est hyper motivé. Il sort, il est.
Parce qu'en fait, il y a son frère qui est dans la
compagnie. Dans la compagnie qui doit aller.
Qui doit aller. Attends, j'ai fait le coup de côté. Et du coup, tu sens. En fait, c'est vraiment. Tu sens que c'est pour mettre un côté émotionnel à.
Un enjeu, ouais.
Un enjeu émotionnel familial, en fait.
Et t'as en plus le principe de devoir sauver la compagnie, et en plus, bah, si vous loupez, il y a aussi ton frère qui meurt.
Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, en gros, le plot, c'est qu'ils doivent apporter un ordre pour annuler une attaque.
Ouais,
parce que apparemment, un contre-ordre, parce qu'en fait, les Allemands se sont retirés. Et en fait, c'est une tactique.
Un piège, pour préparer un piège, en fait.
Préparer un piège.
Ouais. Et donc, s'ils n'y arrivent pas, en fait, ils vont tomber dans ce piège tendu par les Allemands, qui vont les défoncer, apparemment. Et ça sera une perte de 1600 hommes.
Un bataillon.
Pour moi, ça serait encore OK.
Ouais. Un bataillon entier. Ouais. Et donc, du coup, il doit aller voir un certain général Erin Moore.
Non, c'est Mackenzie.
Ah, Mackenzie.
C'est Mackenzie qui doit.
Et c'est Erin Moore, le nom de Colin Firth.
Ouais. J'ai vu. Ah oui, voilà, c'est Erin Moore, c'est celui qui
est. Et donc, il y a Colin Firth qui est là, qui est assez méconnaissable.
On le voit pas beaucoup, de toute façon. C'est...
Bah, il est là pour donner la mission, hein.
Qui va c'est court, on le revoit pas après. Hop, attends.
Voilà, il est juste là pour donner l'ordre de mission, et puis après, basta, quoi.
Basta, exact.
Fait des choses interdites.
D'ailleurs, j'aime bien.
Wow. On passe devant les bars à pute.
Non, en plus, oui, j'aime bien la petite remarque, mais on est que deux. Oui, mais c'est comment le truc le fait d'être seul, le fait, nous permet que d'être plus rapide, un truc comme ça.
Pour bien voyager léger.
Oui, ouais.
Okay. C'est genre citation genre Macbeth ou un truc shakespearien en fait.
Genre aussi ferme ta gueule et vas-y quoi.
Ouais, c'est ça. C'est l'armée, mec.
C'est l'armée, ouais. Tu contredis pas un ordre, tu fonces.
Surtout pas. Et après, paf, bah, ça part, on est direct dans les tranchées.
Ça fonce, ouais.
Ça fonce direct et donc du coup, ils vont aller jusque. Bah, pour moi, la première bonne vraie scène où t'as les confrontations avec un espèce de capitaine qui vient juste d'essuyer un feu nourri.
Ouais.
Et que, du coup, genre la veille, ils ont perdu leur sergent.
Bah, bon, ouais, ou avant-hier soir.
Ouais, voilà. Et du coup, le mec, il est complètement blasé. Et l'acteur, tu avais dit le nom de l'acteur ?
Andrew Scott,
voilà. J'ai trouvé très très bon. Et t'es vraiment. Là, moi, j'ai commencé à entrer dans le film à ce moment-là.
Bah, on sent le personnage désabusé, complètement.
Voilà.
Détraité,
qui est travaillé. Et
c'est en première ligne de mire, ils en prennent plein la gueule. Et
que voilà,
il y a une mission spéciale, mais what the fuck, vient nous aider plutôt à creuser, en tout cas.
Voilà, exactement, à faire des tranchées. Et du coup, là, il les envoie directement sur le No Man's Land, donc cette partie qui est entre les deux lignes.
Ouais, les deux premiers fronts.
Et donc, c'est une partie où il y a des morts.
Ouais.
Et des barbelés en gros.
Et des chevaux.
Et des chevaux morts.
Des chevaux morts, putain, touchez pas aux chevaux.
et c'est vrai que quand t'arrives sur le champ de bataille sur No Man's Land, c'est prenant. Parce que je trouve qu'il y a un peu de tension, parce que tu te dis effectivement, est-ce que les Boches sont toujours là ? T'as appris plutôt que les Boches s'étaient retirés, enfin les Allemands, pardon, s'étaient retirés.
Ah, mais bon, tu peux toujours te dire.
Qu'il y a un vieux sniper qui est
pas
un sniper, mais ils
étaient retirés. Ce serait pas surprenant de la part des Allemands de laisser 2-3 snipers.
Tu oses dire que les Allemands sont fourbes ? Que les Allemands à la guerre sont fourbes ?
On le verra après, oui, ils le sont, c'est oui, clair.
Ouais,
c'est...
L'Allemand ne rit pas, même à la première guerre mondiale.
Non, il a une petite tête d'ange, j'ai envie de l'aider. D'ailleurs, c'est ça aussi qui m'a un peu énervé dans le. Le truc, c'est ce côté très noble de l'Américain qui.
De l'Anglais
qui ne tue pas. C'est au début, comme avec. Bah, on verra après, mais il y a deux occasions où ils auraient peut-être dû tuer l'Allemand, et en fait.
Voilà. Mais il y aura des lourdes conséquences.
Ça m'a un peu gavé, ce côté. Putain, non,
un peu trop gentil.
Je pense que ouais, tu devrais le tuer, quoi. Surtout que, voilà.
Mais tu sens aussi, parce qu'il y a toute une discussion sur le fait qu'il a eu une médaille de guerre.
Ouais.
Parce qu'il a participé à une bataille. Mmh. Et qu'il s'en fout, et qu'en fait, il l'a.
Qu'il l'a revendu contre une bouteille de vin rouge.
Voilà, on apprend après plus tard qu'il l'a troqué contre une bouteille de vin rouge. Et en fait, ce No Man's Land, il est intéressant parce que, en fait, moi, il y a des moments où je sortais un petit peu parce que, tu vois, tu sens la caméra qui passe à travers les barbelés, donc je voyais le dispositif des assistants sous le tournage qui déplaçaient les trucs.
Ouais, ça, comme je te disais, mais après, ça m'a pas dérangé, ça m'a rappelé un peu, on en parlait tout à l'heure, l'effet Gondry, quoi, un petit peu, ou pour avoir vu des mecs tout neufs aussi de ces films, où T'as vraiment une sorte de danse comme ça qui se joue entre les acteurs et les assistants, la réal, tout ça. Enfin, c'est t'as une sorte de vraiment de chorégraphie entre tout ça, pas uniquement entre les acteurs sur le plateau à devoir jouer leur scène, mais aussi entre toute l'équipe. Quoi. C'est moi, ça, c'est quelque chose. Je vois le côté derrière aussi, mais du coup, ça me dérange moins. Je vois quelque chose de beau, quoi, en fait.
Ouais, ouais. Ouais, t'es pris par la chorégraphie, quoi.
Ouais, t'es pris par rapport à ça, quoi, effectivement.
Et puis après, bah, on arrive assez rapidement, en fait, chez, dans les lignes allemandes.
Ouais.
Là où on voit la différence entre les tranchées anglaises et les tranchées allemandes. Et le mythe de l'allemand organisé n'est pas un mythe.
Bah, Sam Mendes l'a gardé, effectivement.
Ah, ça, il l'a gardé vraiment, dans le sens que les tranchées allemandes sont nickel. Mais nickel, tu sens que tout a été bétonné.
Mais après, aussi pour dire, elles sont vides. Hein. Donc forcément, quand c'est un peu vide comme ça, ça
ouais, peut... mais ça n'a rien à voir avec, tu vois, du côté anglais, tu vois, t'as des treillis de bois, tu sens la boue qui est présente, alors que de l'autre côté, tu sens un peu plus clean, tu vois.
Peut-être qu'ils ont fait le ménage avant de partir aussi.
Connaissant les Allemands, peut-être.
Une seule poussière avant de partir.
Vous menez jusqu'au bout.
On va quand même pas passer pour des crados.
Et là, et après, il y a un truc un peu obvious qui arrive, un peu facile, c'est donc qu'ils arrivent dans un tunnel.
Ouais.
Et là, ça
commence un peu le côté thriller.
Voilà. T'as le côté un peu ambiance vraiment souterraine. Et du coup, ils découvrent des casemates hyper avec des lits superposés, avec
des matelas. Des casernes souterraines faites dans les Allemands.
Des bonnes casernes de guerre normale et que eux on imagine n'ont pas, et au contraire eux ils ont des petits abris de fortune.
Ça aurait été marrant que les mecs, le film s'arrête là. Bah, on est bien là, on va rester ici en fait. On est parti, la prochaine bataille se passe là.
Et là donc, et c'est marrant, s'ils découvrent, donc en fait le film n'est que aussi une suite de préparation paiement pour la suite.
Qu'est-ce qu'ils découvrent
là? Là ils voient, t'as une espèce de sac de bouffe, tu vois, qui pendent.
Ah oui, avec les rats.
Et tu vois des rats qui sont faits en image de synthèse, qui sont très bien foutus. Merci.
Ouais, c'est vrai que pour le coup,
les rats sont vraiment...
Dit, mais sur le coup, moi je m'étais même pas fait la réflexion. Je fais putain, il est bien dressé ce soir.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais c'est exactement ça. Au début, je me suis dit ça, et puis en fait, je me suis dit non, en fait, c'est pas possible. Et
non, c'est pas possible en fait. Non, c'est
non. Est-ce que je rentre là dans.
Non, tu peux aller tout droit, ce sera aussi simple.
Ok. Et là, en fait, on voit qu'il y a des boum, je t'attrape.
Ouais.
Donc,
ouais.
Je sais pas si tu vois la petite référence du boum, je t'attrape. Hein.
C'est dans les Goonies.
Ah. C'est des pièges que les Goonies font, ils appellent ça des boum, je t'attrape. Hein.
Oh putain, que je suis déçu de pas y repenser.
Et donc là, ils voient à gauche là.
Ouais, tu peux aller à
gauche. Ils voient un fil par terre, et donc ils disent attention, faut surtout pas marcher dessus.
Malin, ils ont vu le fil.
Voilà, sauf que. Et là, vu la préparation paiement qu'il y a eu avec le rat,
exact.
On voit le rat choper un sac de bouffe et tirer. Et ça, c'est la scène est terrible parce que ça passe hyper vite.
Ouais, ça va très vite.
Et d'un coup, paf, ça explose parce que le rat déclenche le fil comme un gros connard.
Mais là, ils n'auraient pas dû mourir en ce moment-là ?
Bah, oui et non, dans le sens que oui. Théoriquement, oui, on est d'accord.
Putain,
mais
ouais,
c'est tu s'arrêtais là.
Celui qui retrouve sous les catacombes, là, enfin, sous les pierres.
Mais c'est bien fait. Moi, j'ai pas été trop dérangé.
C'est tout bien fait. C'est juste que le petit truc où ils survivent, quoi.
Voilà.
Et non, mais c'est bien fait. Par contre, c'est clair que s'il y a une explosion, ça se passe comme ça, quoi. Le mec, il est sous les roches, il est enseveli.
C'est pas une explosion à la Michael Bay.
Non, mais je t'ai dit, Michael Bay, il fait exploser des tasses de café.
Ouais, c'est ça.
C'est corser le café.
Tout droit, là ?
Tout droit, ouais.
Et donc là, donc on sort enfin de cette casemate où il y a des petites scènes un peu.
Mais parce que le caporal Blake.
Schofield, lui, il est enseveli. Ouais. Il s'est fait sortir.
Exact.
Et en fait, il est aveuglé par la poussière. Donc du coup, tout l'enjeu, là, il y a une skin à droite là. Il y a la scène marche bien où justement ils doivent
vider toute leur eau.
Oui, vider toute leur eau
parce qu'en fait,
ils sont.
Ils sont complètement aveuglés.
Et du coup, ils doivent sortir de cet endroit-là, ils doivent sauter des obstacles.
Ah oui, ça c'est dans le tunnel, autant pour moi. Oui, ça c'était Hugo Délire.
Voilà, exactement, la scène Hugo Délire. Putain, c'est exactement ça, mec.
Appuie sur la touche 5. Mais putain, appuie sur 5, bordel. Saute, bordel. Allez, mais fais-moi confiance.
Ouais, Karen Cheryl. Attends, je fais demi-tour.
Non, c'est toujours encore.
Ah, encore, merde, c'est après.
Ouais,
c'est ok, c'est trop grand. Et. Attends, je vais mettre là.
Là, tu peux pas.
Non, mais le temps, de, le temps de...
Ah oui, de finir.
Le confinement du truc, quoi.
Exact.
Et donc, à ce moment-là... Ouais, on va un peu vite, là, mais...
Oui, parce que c'est... On est fatigué. Et du coup, on va pas rester forcément sur...
Non, puis pas, juste... Voilà, on sort de ces casemates. Là, on tombe sur une scène, sur une, un plan, mais... Vraiment beau, tu vois, avec vraiment les pièces d'artillerie qui ont été sabordées par la...
Ah oui, oui, sur la plaine, là, ouais, voilà. Ouais.
Et là, c'est intéressant parce que c'est... Enfin, on arrive sur un plan large.
Ouais.
Enfin, on a un plan large de la situation. Et enfin, on commence à prendre mesure de l'étendue de la guerre, en fait. Je sais pas si je me fais bien comprendre, mais il y a un côté où... On voit la puissance de feu de l'armée allemande.
Ouais, toi, tu l'as ressenti là ?
Ouais, j'ai senti ce côté de majesté, tu vois. Enfin, majesté dans le sens puissance, tu vois. Le fait que, ben voilà, effectivement, ils ont tout abandonné.
Moi, c'est après que je l'ai ressenti.
Et après, on part sur la scène où on arrive sur cette ferme. Ouais.
Là, c'est la ferme.
La ferme.
Ah, d'ailleurs, j'ai trouvé ce petit plan séquence. Bon, hein, c'est vraiment suivre les mecs. En fait, on les suit en train de marcher jusqu'à cette fameuse ferme. Et eux racontent son histoire de...
De comment un gars s'est fait mordre, s'est fait perdre une oreille.
Ouais. Ouais. Et ça, c'est bourré de petits trucs comme ça, en fait.
Ouais, mais là, je trouve que ça marche pas, ces petits détails. Parce que du coup, je trouve qu'ils font vraiment hyper artificiel.
Ah,
et,
ouais,
et là, c'est le plan, ce plan séquence-là... Quand on est de profil et eux qui marchent dans l'espèce de semi-campagne, il y a un côté où, ok, on est sorti de la guerre, donc on est sur une discussion plus...
plus détendue.
Mais là, je trouve qu'il y a un côté soldat Ryan à crever.
Parce qu'on prend une sorte de quotidien ou
Non, il y a ce côté soldat Ryan de, tu vois, des moments, des discussions... de ce que un peu comme Band of Brothers aussi le fait, mais
ouais,
parce que c'est pompé sur l'Ariane, mais il y a un côté où on essaie de mettre de la normalité dans des situations anormales, et moi tu vois, niveau dialogue, je trouve ça que ça amène à quelque chose d'un peu plus
léger,
pas léger mais faible, pas sincère.
Ah ouais, du coup, mais pour toi ça, bah, ça affaiblit du coup un petit peu pour toi le scénario, quoi, du coup, en fait,
le dialogue, pas le scénario, le dialogue,
le dialogue.
Et là, on arrive à la ferme et on sent qu'il y a une espèce de tension par rapport à cette ferme, mais qui est très vite désamorcée. Et je trouve qu'en fait...
Ce qu'il fait tout le temps.
Ouais, voilà. Mendes désamorce... Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou sans
vrai... Est-ce qu'il y a l'intention de vouloir mettre une... Oui.
Non, il y a une tension qui est là, qui est présente, et tu l'as un petit peu, mais je trouve qu'à chaque fois, il la désamorce très rapidement, en fait. La moindre situation, l'explos de la ferme,
ouais,
il la désamorce hyper vite. Non, c'est normal, c'est la voiture qui fait ce bruit.
C'est vrai ?
Ouais. J'ai parlé d'une sirène d'allemand qui est dedans. Parce que c'est un moteur allemand, c'est pour ça.
Et, ils sont là, putain.
Et après, donc, il y a cette bataille où on voit des biplans qui se
pourchassent. Ouais.
Ça c'est kiffant.
Ça, c'est kiffant, effectivement. Ouais.
Mais pas très réaliste, je trouve, parce que la bataille est un peu nulle. On voit de loin, il ne se passe pas grand-chose.
Bah, tu vois leur point de vue, hein, c'est vraiment à leur taille.
Oui, non, bien sûr. Mais, ouais. Ça, bien sûr. Mais c'est pas... c'est pas les grandes batailles du Baron Rouge, quoi. C'est pas.
Non, effectivement, ça dure pas des plombes. C'est pas. Y a pas de zoom. On n'est pas à l'intérieur. On n'est pas à côté. On voit vraiment de très loin ce qui se passe et c'est assez rapide, effectivement.
Très rapide. Et là, l'avion s'écrase sur la ferme, forcément.
Et on devine que c'est l'avion allemand.
Justement. C'est un avion allemand, voilà, qui s'écrase et le pilote est secouru. D'ailleurs, le pilote était un peu comme Niki Lauda dans sa F1. En train de cramer.
Ah ouais.
Et donc il se fait secourir. Et là, pendant que Schofield, celui qui va devenir après le héros de la fin du récit,
ouais,
en train de prendre de l'eau, bah, en fait, l'Allemand blessé va attaquer Blake. Celui qui était le héros du début, premier quart de film, parce que là on est. Au bout d'un quart de film.
Ouais, on suit deux protagonistes jusqu'à la moitié du film, là, quasiment.
Bah, ouais, en fait, oui, avant. Non, en fait, oui, on est un peu avant la moitié.
Ouais.
On est un peu avant la moitié. Je dirais, c'est un gros quart.
Ouais,
enfin, un gros tiers.
Un gros tiers, ouais, exact.
Et là, Il y a cette scène qui dure des plombes, mais qui marche, en fait. Si tu veux, on peut fumer dehors, en fait. On fait pas la voiture, en fait.
Non, je sais, mais je veux pas
fumer. Ah, d'accord, maintenant. Ok, cool. Et en fait, là, il y a cette scène où il meurt, Blake, qui, là, je trouve, fonctionne.
Tu t'y attendais, non?
Bah, quand j'ai vu le coup de couteau, je me dis, j'espère pas qu'il va mourir. Et puis, quand il est à terre, il essaie de le relever plusieurs fois.
Et que ça marche pas.
Et je me dis, non, ok, là, c'est foutu. C'est foupoudave.
Ils vont le faire mourir.
Mais en même temps, je trouve que pour faire avancer le récit, il fallait qu'un des deux meure.
Et ça, pour donner encore plus, et c'est bien vu de la part de Sam Mendes de faire mourir justement le frère pour encore plus de...
Pour ajouter vraiment de l'empathie.
On déplace, ouais, on amène de l'empathie par rapport à ce Scott Pilgrim, du coup, qui se retrouve tout seul.
Qui a du coup une double mission.
Ouais, qui a une charge énorme d'avoir cette promesse qu'il a faite d'aller
retrouver son frère. Son frère, en plus,
tu vois. Laquelle il va vraiment se focaliser jusqu'à la fin.
Jusqu'à la fin, ouais.
Jusqu'à la fin.
Et là arrive une compagnie en mode random.
C'est quand même ballot, hein. Pile poil quand il meurt, le mec.
Quand il meurt, il y a une...
Les autres arrivent et...
Et les Anglais qui arrivent. Et là aussi, je trouve que la caméra de Mendes... Elle fait un truc un peu bizarre dans le sens que elle se pose à un endroit, il y a une valeur de cadre où t'as le Blake qui est mort, Scofield qui est en train de genoux. Là, il y a deux soldats qui sont à côté ou qui sont coupés au niveau de la taille, on voit pas. Et là, d'un coup, il y a deux bottes qui arrivent et tu comprends que c'est le capitaine de ce petit bataillon. Et ces troupes, et du coup, c'était très artificiel, du genre, ça fait vraiment plan de cinéma. Et en fait, tu vois, dans...
Bien, au cinéma.
Oui, mais dans le sens qu'il y a plan de cinéma et plan de cinéma, dans le sens que là, c'est un plan artificiel, je trouve, dans sa mise en scène, en fait. C'est ça qui...
Un peu gros, quoi.
Voilà, c'est ça que, du coup, c'est ces petits détails-là qui me font un peu sortir du film.
Ouais, c'est marrant, moi, ça n'a pas...
Parce que je vois la technicité et la mise en scène qui est... plus grossière que s'il y avait eu un découpage filmique classique. Et en fait, c'est ça qui, du coup, moi, me dérange et qui est symptomatique de mon avis général et de mon ressentiment sur tout le film. C'est parce que il y a ce côté de non-réalité de la représentation de la réalité.
De non-réalité de la représentation de la réalité.
C'est-à-dire que c'est le système de représentation de la réalité qui est fait par la caméra. Est entièrement guidé par le point de vue de Mendes, et ce qui est normal parce que c'est le réalisateur. Mais je trouve que dans la mise en scène et des séquences et des scènes, il y a des choses qui se font un peu parfois au forceps.
Ouais, ça se fait. Tout à l'heure, mais oui, je comprends. Mais ça, on en revient tout à l'heure. Toi, c'est ton œil.
Oui, voilà, c'est mon problème technique qui se met.
T'es un musicien qui écoute un groupe jouer, t'arrives pas à...
J'entendrai la partition.
Ouais, tu vas voir la partition, tu vas voir le truc, tu vas...
Mais en même temps, c'est aussi la patte des grands réalisateurs. Tu vois, ça, j'ai pas ça. Sur le Inarritu, sur Birdman, j'ai beaucoup moins ça.
Ah ouais?
Sur Birdman, j'ai eu moins ça. Parce que c'était pris parce que quelque chose de... étrangement, comme il y a beaucoup plus... d'action, même si, enfin, de deux lieux différents, parce que là.
Ouais, déjà, c'est clair.
Parce que les tranchées, c'est bien, mais les tranchées, au bout d'un moment, t'as une certaine monotonie dans le fait d'avoir toujours ce déplacement, soit dans les tranchées, c'est que ça suit devant ou derrière. T'as jamais sur le côté, ouais, à part vers la fin.
Tu vois, quand même, les tranchées où c'est vraiment exigu, tu te sens vraiment, ça devient anxiogène. Après, ils arrivent dans les plaines, dans ces plaines à perte de vue. Après, t'as ces côtés vallonnés. Après, ils reviennent dans les tranchées. Après, il y a cette ville détruite, magnifique, je trouve, qui fait très carton-pâte quand elle sort par la fenêtre.
Moi, je trouve, elle faisait 3D pour moi. on va y arriver.
Mais du coup, moi, tu vois, pour moi, les ambiances différentes, elles étaient là aussi quand même. Même si on est sur un même plan, je sais pas comment l'expliquer, mais on est sur un même plan. C'est bien passer d'un point A à un point B. Bah, malgré ça, là-dedans, il arrive à te montrer différentes atmosphères, différentes.
Diversité, ouais.
Je trouve que la scène de la ville à la fin quand il fait nuit, c'est limite de l'horreur, quoi. T'as un peu.
Ah oui, et clairement. Là, on est clairement sur quelque chose de très, très horrifique. Mais écoute, on va y arriver.
On va y arriver.
Juste après.
Ouais.
T'as une belle scène dans ce bataillon qui est motorisé, donc il est dans un fourgon.
Ouais.
T'es pris.
Oui,
oui, oui.
Non, excuse-moi. Moi, je veux juste quand même une chose par rapport à Mark Strong. Non, mais par rapport à Mark Strong, parce que là, c'est justement, ouais, j'aime Strong, beaucoup cet acteur.
C'est l'acteur qui joue le capitaine qu'on voit avec les bottes.
Qu'on voit avec les bottes. Et j'aime bien justement, toi, ça t'a un peu sorti de ça, justement, ce plan un peu peut-être au forceps des bottes qui arrivent. Et moi, j'ai bien aimé cette amenée, en fait, de ce sergent colonel capitaine, je sais jamais. Parce qu'on ne voit pas son visage, on ne sait pas. Moi, je savais pas que c'était lui à ce moment-là, mais la voix.
Ouais.
La voix qu'il a, ce mec-là.
La voix, elle est forte.
Elle est strong. Elle est tombée. Tu sens vraiment le mec, il est en deuil, il vient de perdre son ami, il vient de perdre son.
Et on sent que l'autre a de l'empathie pour ce moment-là.
Dès la voix, cette voix basse qui porte comme un deuil avec lui, sans savoir ce qui vient de se passer, mais il comprend tout de suite que Friends. Ça. Bam, ça pose le truc, et après, tu vois son visage, et tu vois, enfin, sa gueule, j'aime bien sa gueule.
Elle est bien, non, mais tu sens que c'est un bon capitaine, c'est un bon gars.
Mais il est pas british, par contre, je crois.
Je sais pas. Mais en tout cas, tu sens que c'est un bon gars qui mène ses hommes à la bataille et qu'il a l'air juste.
Pour la petite réflexion qu'il fait après, justement, avant de monter dans les camions.
Ouais.
Ce qui est intéressant, là où donc tu sais la mission, il doit aller retrouver ce colonel Mackenzie, mais il y a ce petit indice que laisse ce Mark Strong juste avant de partir en lui disant si vous y arrivez, faites en sorte qu'il y ait des témoins
quand vous allez donner l'ordre, que vous allez donner le contre-ordre pour attaquer, parce que du coup ça montre que peut-être le futur général, enfin la confrontation avec le futur général ne sera pas vraiment prise à son vrai potentiel, enfin son vrai degré de
non. Et puis il fait comprendre aussi que c'est ce que j'ai compris, c'est que
c'est un va-t-en-guerre.
Même si limite il pourrait savoir que c'est une cause perdue,
il irait quand même
et que c'est un gars qui aime y aller, quoi, et du coup qu'il va falloir
un peu parlementer, puis mettre ses couilles sur la table.
Et être entouré, quoi. Pour pas se faire niquer, quoi. Et donc, t'as un petit indice du genre, oula, où est-ce qu'il va, quoi.
Et ça, c'est subtil et c'est pas mal. J'ai trouvé effectivement que c'était très intéressant comme définition du boss final, en fait, en gros,
le MacGuffin.
Le MacGuffin du truc, quoi. Et ça, c'est intéressant. Et après.
Donc, il dit ça, là, il monte dans les camions.
Et les camions de la scène, elle est forte, toute cette vie de troupiers, enfin de soldats,
qui passage transitoire,
qui donc parle de tout et de rien, qui imite peut-être un de leurs hautes capitaines, qui se fout de sa gueule. Mm-hmm. T'as aussi le fait qu'on voit quelqu'un du Commonwealth, c'est-à-dire un Indien qui est dedans dans le fourgon, ainsi qu'avec un turban, et qui du coup fait partie de ce grand Commonwealth, des mecs qui se demandaient rien à personne, qui sont en Inde et qui se retrouvent en France. En Moselle, pour aller combattre, libérer, enfin, c'est pas sa guerre, quoi.
C'est clair.
comme dirait notre cher ami Sylvester, c'est pas sa guerre. Donc, du coup.
Ça fait penser à beaucoup d'autres armées, d'autres pays qui ont utilisé.
Comme les Français avec les indigènes.
Les Américains aussi.
Et les Américains aussi, avec les natives.
Exact.
Et où même les Noirs américains, les Afro-américains,
en première ligne, quoi.
Qui étaient envoyés en première ligne. Et donc c'est vraiment intéressant, cette dynamique sociétale est vraiment hyper intéressante. Et c'est très bien amené, où justement on voit que la caméra se met d'un point de vue, puis en fait passe derrière les soldats.
Donc, ça c'est pas mal, effectivement.
C'est que techniquement tu dis, en fait le camion il est gigantesque, quoi. Ouais,
parce que t'as quand même ce point de vue t'as quand même cette fenêtre sur l'extérieur. Où on voit le décor, le paysage dehors qui défile. On n'est pas vraiment en huis clos, enfermé avec eux. On a cette fenêtre qui nous permet justement de cet ancrage sur. On n'est pas sur un fond vert. Je pense pas qu'il soit sur un fond vert.
Non, c'est durée.
Et du coup, ce camion, comment est-ce qu'il est foutu pour qu'il passe derrière les soldats dans cette camionnette?
Il y a un truc.
Il y a forcément un truc, puisque là, effectivement, on voit des passages. Des cuts quand ils montent dans les camions à chaque fois.
Il y a des cuts qui sont un peu voyants.
Par temps d'autres.
Oui, il y en a d'autres qui sont. En fait, en gros, dès qu'on voit passer un objet en premier plan, ça nous sert de transition avec un point de montage avec un autre plan séquence.
Mais compréhensible, parce que quand tu vois la scène d'après, tu fais ah ouais, non, ça aurait été super.
Donc voilà, effectivement. Donc t'es obligé pour construire et pour filmer ça, t'es obligé d'avoir des points de montage. Donc cette séquence du camion est très intéressante. Ça montre la fraternité et surtout parce qu'à un moment ils sont embourbés et en fait
au début, ils vont pas donner un coup de main à Scofield qui lui est le seul à pousser le camion.
Ouais, quasiment. Ouais, ils sont un ou deux à l'aider.
Et du coup, on va voir qu'il y a toute l'entraide entre soldats la solidarité entre soldats qui va se mettre en place et qui vont réussir à sortir le truc. Ouais, parce que le gars, on sent qu'il a une mission à faire et qu'il doit la faire.
Là, on comprend qu'il a fait une promesse et qu'il va s'y tenir.
Et sa profession de foi est entamée, en fait.
Ouais,
et qu'il croit en sa mission.
Ouais. Quitte à le mettre un peu mal vu, hein, tu sais, les mecs au début.
Voilà, oui, ouais, il est mis un peu au vent.
Ouais. Ouais, tu prends le devant, là.
Et ça, c'est intéressant. Arrive au moment où, forcément, ils doivent passer par un pont, mais le pont est détruit. Donc, du coup, séparation. Là aussi, j'ai senti un peu le scénario où il fallait un obstacle.
Ouais, ouais.
Et c'est un peu, voilà.
Vous avez beaucoup pensé à Soldat Ryan.
Ouais, voilà. Exactement. Ouais, exactement. Ouais. Et forcément, quand on arrive sur le pont.
T'y attends, quoi. Tu vois des façades détruites de l'autre côté de la rivière. Voilà, tu vois ce pont détruit. Tu te doutes que là,
on passe à un nouveau, comme un level de, un level de jeu vidéo.
Il a eu sa petite pause avant, il sort de remettre un peu sa vie, en meilleure forme.
Et hop, il y va.
Allez hop, on y va, quoi.
Et là, par contre, dès qu'il va sur ce pont, il se fait canarder par un sniper, un Allemand en embuscade. Et là, de nouveau, c'est quelque chose de classique. Je trouve qu'on est sur un truc très classique, comme dans Soldat Ryan, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Tu vois, l'Allemand
le tireur embusqué.
Qui
est là pour désinquer ceux qui veulent passer. Personne ne passe ce pont, quoi. Non, c'est. Moi, je l'ai trouvé.
Mais par contre, l'attaque, tu vois, la fight entre lui qui est en bas. Et le gars, l'Allemand dans la maison, c'est pas mal.
Ouais, mais en y repensant, moi je me dis, putain, le mec, l'Allemand, il avait quand même mille façons de pouvoir le tuer facile.
Après,
l'Anglais le voit pas.
Non, il sait plus ou moins vers où il est.
Complètement à découvert. Ça veut dire que l'autre le mate depuis une heure avec son fusil pour pouvoir tirer.
Pas forcément une heure, mais depuis il l'a vu sortir du camion.
Ouais, mais il l'a vu débouler sans être caché, sans rien. Vraiment,
non, bien sûr, quoi. Mais après. Ça aussi, les Allemands visent très mal, mais il y a une certaine réalité. Tu vois, il y a une réalité où, forcément, tu tires pas forcément, tu touches pas du premier coup, tu vois. T'as un flingue qui est pas forcément hyper fiable.
Non. Je suis d'accord, effectivement, mais quand même, je sais pas. Parce qu'après, lui, en quoi? En deux tirs? Trois tirs?
En deux tirs, il le tue. Après, il arrête pas de canarder la position. Et après, il va achever l'Allemand. Et là va arriver la première ellipse, la seule grosse ellipse du film, où en fait en gros il y a cette scène où il arrive, il va entrer, il ouvre la porte et il tire sur l'Allemand qui l'attend. Et l'Allemand forcément il l'attend avec un gun et il lui tire dessus notre ami Scofield se fait projeter en arrière et tombe dans les escaliers.
Sérieux,
c'était grillé à 15 km.
Ouais, le mec depuis le début tu vois faire des moves qu'il a appris, tu le sens, il gère bien, il y a un avion, il se couche à terre, enfin il a vraiment des bons réflexes. Et là tu fais, mais mec, qu'est-ce que tu viens de faire, quoi? Tu ouvres une porte, tu sais que le mec est derrière et tu l'ouvres en grand, tu restes devant.
Ouais, ça c'est un peu bête.
Bon, bref, mais bon.
Et
il fallait en tout cas, c'est clair que avec la scène précédente du tir où il arrive à désinguer l'Allemand et celle-ci, où cela, là aussi moi je me dis, c'est dans ce moment-là, je t'ai dit, j'ai lâché prise en fait par rapport
à la réalité.
Je me dis, ok, d'accord, là je me laisse aller par l'histoire de Sam Mendes emporté parce que. Là, c'est on a des raccourcis. Enfin, pour moi, c'est pas des raccourcis scénaristiques, mais là, on pousse le scénario.
On force. Et après, donc son réveil, là, ça devient. On arrive sur une scène magnifique, je trouve, pour moi, une séquence magnifique où on est dans la ville par laquelle il doit passer pour aller rejoindre la compagnie où il doit délivrer Devon, et donc la ville de Escourt ou je sais quoi.
Oui, Escourt.
Escourt. Et donc là, c'est une ville en ruine. Qui est magnifique. Moi, je trouve que la photo de Roger Deakins est géniale.
Alors, quand il est dedans, quand il court, après, là, moi, j'y crois. Mais le premier plan.
Ah, mais j'ai trouvé ça très 3D.
Lui se réveille. Fait. Ouais, non, moi, j'ai trouvé ça très carton-pâte. Mais vraiment, pour le coup.
Moi, j'ai trouvé ça très.
J'aime beaucoup le trucage carton-pâte. J'aime beaucoup ce qui a été fait par Rosen à l'époque, le créateur de tout ça, enfin tout ce qui a pu s'en suivre. Je suis beaucoup plus fan de ce genre d'effets spéciaux que du numérique. Mais là, pour le coup, j'ai trouvé ça un peu. Ah ouais, non, on le voit, quoi. On le voit bien, quoi.
Moi, ça m'a pas choqué parce que j'ai trouvé un côté plus 3D, tu vois, de photoréalisme 3D.
que je trouvais intéressant parce que ça donne un côté un peu irréel, un peu maquette irréelle. Ça donne une irréalité et ça donne, ça fait un vrai décor. Moi, ça m'a fait penser toute cette séquence à Apocalypse Now.
Ah ouais?
Tu vois,
la lumière,
tu vois la scène où, vers avant qu'il arrive à, dans la version normale, pas la version Redox, enfin, vers la fin de son voyage en bateau, où il doit faire étape, où il y a, tu sais, il y a une chanteuse qui vient donner un récital, et t'as une offensive des Viet Cong, et, cette séquence de tir où ça part en coup, c'est complètement psychédélique, mmh. où t'es complètement perdu au niveau de l'espace, t'as un Viet Cong qui n'arrête pas de crier, avant les Américains qui est en train de crever, et donc du coup, ils essaient de le buter en tirant au lance-grenades. Et cette séquence m'a toujours paru hyper chaotique et hyper LSD parce que, Coppola nous met dans la folie du personnage
de ce qu'il voit, de ce qu'il est en train de vivre en ce moment.
Voilà, comment il s'appelle, de Martin Sheen, mais comment il s'appelle, Lillard, le capitaine Lillard.
Oh là là.
Ah, bref, de Martin Sheen qui est là complètement désabusé face.
Du coup, ouais, donc ça. Alors, est-ce qu'on est d'accord dans ce cas-là que, est-ce que c'est la même chose? Mais du coup, oui, effectivement, il est perdu et on sent qu'il est perdu. On est perdu un petit peu avec lui dans cette ville
où il est. C'est très fantomatique puisque il sait pas vers où aller. Il doit aller vers la rivière.
On n'a pas de vue, on n'a rien.
On sait pas encore la rivière.
Encore là, mais enfin, c'est pour y venir. Hein.
Voilà.
Mais il va se passer des choses avant. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de champ
de repère.
On n'a pas de champ de vision. On n'a rien. Non, dans l'espace. C'est tout ce qu'on avait avant, quoi.
Ouais, voilà. Parce que c'est sombre. Il y a du feu. Il y a des flares qui sont lancés. Donc du coup,
et puis ça, cette lumière orange au fond.
Ouais, qui est chaotique.
On devine ce que ça peut être, mais qu'on la voit, c'est l'enfer. On dirait une bouche de l'enfer en fait. C'est droit dedans, quoi.
C'est exactement. C'est la Divine Comédie, tu vois. C'est vraiment ça. C'est vraiment, enfin là il cherche son Virgile pour l'accompagner et pour aller descendre à travers les enfers. Le Virgile vient par la découverte, par une course poursuite avec il se fait tirer dessus par un Allemand, où il arrive par magie dans une cave où il y a une Française qui est cachée.
Mais d'ailleurs, juste avant cette scène où il découvre ce soldat, quand il voit cette église, que je suppose être une église, hein, qui est en train de cramer, qui est image assez forte, quoi. Tu te rends compte de la
puissance,
et surtout de la méchanceté, on brûle tout, quoi.
Ouais,
il reste rien, quoi. Vraiment, tu vois, il reste rien. Il n'y a plus que les murs. C'est l'horreur. Et il voit ce soldat.
Oui, qui est en face, cette silhouette.
Et tu les vois au début.
Ils sont un peu quoi? Ils savent pas trop quoi faire, les deux.
Ils se rapprochent. Et au fur et à mesure qu'ils se rapprochent, tu sens que celui qui est en face est le premier à ralentir.
Et à réagir.
Et à foncer vers le mec avec le fusil. Et là encore, moi, je me dis, putain, il réagit pas très vite, là.
Non, effectivement. C'est dommage, parce que c'est désamorcé. En fait, c'est ça, la tension que Mendes met avec sa mise en scène sur la silhouette qui est magnifique, qui sort de l'orange, un peu comme il sort de l'enfer. Et c'est désamorcé très rapidement parce que, Scofield ne réagit pas. Si il va fuir, et c'est normal, parce que justement, on n'est pas dans le schéma classique du militaire héros du Rambo qui va, du Rambo qui va tuer tout le monde. C'est quelqu'un qui va pas forcément, c'est un militaire normal, c'est-à-dire qu'il va pas forcément tuer.
Les deux ne sont pas des tueurs, hein, puisque le pilote de l'avion, l'erreur qui, au lieu de le tuer, puisque Scofield le dit, on va abréger ses souffrances.
Et l'autre, il lui dit
non, on va chercher de l'eau.
Erreur, il se fait tuer.
Rebelote, c'est vrai que tu sais pas, mais là encore, tu te doutes, putain, depuis tout à l'heure, mec, vous rencontrez que des ennemis. Enfin, pas que, mais en l'occurrence, vous avez rencontré, t'apprends quand même de tes erreurs. Et là, rebelote, tu fais encore confiance, tu vois le truc, putain, mais tu devrais être le premier à flipper
et
à pointer ton fusil sur
et tirer tout ce qui bouge, quoi.
Éventuellement à tirer tout ce qui bouge. Mais non, ils ont pas ça.
Non. Et donc là, après, donc, course poursuite, là, par un soupirail, il arrive dans une cave et il tombe sur une Française.
Ouais.
Qu'est-ce que t'as ressenti? Parce que moi, je trouvais que la Française, j'y ai cru, puis après j'ai plus cru, puis après niveau de l'émotion, puis après j'y ai recru. Enfin, c'était
une montagne russe. C'était un sacré ascenseur émotionnel.
Des montagnes russes, pas ascenseur émotionnel, des montagnes russes de.
Non, là, je t'avoue, pour moi, c'était un peu plat.
Ouais.
Pas de ressenti, le bébé,
Ouais, parce que du coup, on découvre qu'il y a un bébé qui, en plus, il essaie de mettre une histoire avec parce qu'elle lui dit que c'est pas le sien, qu'il a pas de nom, qu'elle connaît pas son nom. Et je trouve que ces moments, cette pause dans ce chaos me pose problème parce que à partir du moment où on arrive dans le chaos, j'ai envie d'aller, de continuer dans le chaos, de rester sur cette ambiance du chaos. Ouais, et là, en fait, il est, on nous met une pause qui est un peu longue, je trouve. La séquence est un peu longue. Ouais. Et heureusement, ça part très vite puisque il est sauvé par le gong, entre guillemets. Il y a l'église qui sonne, je crois, 6 heures du matin. Mmh. Et si j'ai bien compté. Et à ce moment-là, il se rend compte que il doit absolument aller avant que l'attaque se lance au lever du soleil.
Oui, il a un retour de valeur en regardant aussi le bébé. Je pense qu'il se conscientise aussi lui, on le comprendra de sa mission et de tout ce qu'il, on le comprendra aussi après. Mais c'est des éléments en fait en y repensant rétrospectivement. Moi, je me dis, il doit penser à ça, il doit penser à sa femme,
Famille.
Là, il doit se dire, putain, j'ai une mission, il faut que je fonce, quoi. Alors que là, pourtant, c'est le calme, tu vois, c'est vraiment le moment, il a quand même la tête amochée, il a une sacrée commotion à la tête, il saigne, le mec, il marche plus droit, ça se voit.
Il pourrait rester là, quoi.
Niveau jeu, je trouve que c'est plutôt bien joué parce que tu comprends, rien qu'en le voyant de face, que tu comprends que le mec,
c'est la merde, quoi.
Pas bien du tout.
Et puis après, il déambule dans les ruines, parce que là, il a pris l'information qu'il doit aller, il doit trouver la rivière pour aller.
En croisille, avec la direction.
Et trouver le bois pour aller rejoindre la compagnie. Mm-hmm. Et là, en fait, il va déambuler, et il va se tomber nez à nez avec
des Allemands. Et là, mon vieux, il te tape un sprint.
Et en fait,
pour un mec qui a failli mourir.
Mais ce qui est intéressant, c'est la scène justement où il se bike. En fait, il voit un Allemand qui sort dégueulé et il se cache. Ah, il rentre par le côté. Et là, il y a un autre Allemand qui est là. Mm-hmm. Et là, il le plaque, il lui dit chute. L'Allemand fait signe qu'il comprend.
Là encore, nouvelle erreur. C'est quoi le délire?
Et tu dois le tuer normalement.
Tu dois le tuer. Tu dois le tuer. T'arrives en surprise. Tu dois le tuer. C'est-à-dire que je m'imagine dans une réalité de la guerre où déjà, le pilote d'avion, t'as failli te faire buter. Le mec à côté de l'église, t'as failli te faire buter. Là, tu retombes sur un Allemand. Tu sais que c'est des Allemands.
Et c'est pas là pour rigoler, quoi.
Tu joues pas le con une troisième fois. Je sais pas comment je réagirais, bien sûr. Tu tues, quoi. Bah, non, c'est chute. Et en plus, c'est chute avec, il enlève ma main.
Et puis.
Et tu te tais, hein.
Ouais, c'est ça. Et là, forcément, l'Allemand va gueuler. Et là, il y aura une baston. Ce qui est marrant, c'est que l'autre Allemand en second plan, en arrière-plan, complètement bourré, ne capte rien.
Mais
ça, c'est marrant. Ça, je trouve que c'est un petit truc qui est intéressant. Et donc voilà. Et finalement, il arrive à l'étrangler. Et il s'enfuit. Il se fait tirer dessus comme un lapin.
Mais là encore, quand il passe à côté du mec bourré, limite, tu te dis, mais il aurait pu prendre un couteau. Sa baïonnette. Mais non, là encore, il le pousse seulement et il s'enfuit. Et du coup, il est coursé, mais pas. Plusieurs.
Deux, trois Allemands, on va dire.
Ouais, mais là, il tape un sprint. J'ai halluciné le sprint de malade qui tape.
C'est l'adrénaline. Hein.
Ouais, non, c'est sûr, mais. Et là, cette scène-là, ce suivi-là en plan séquence, c'est vraiment pas mal parce qu'on va jusque le saut.
Le saut, parce que du coup, il va continuer, il va sauter d'un pont, ce qui va le sauver. Mm-hmm. Et là, c'est vraiment intéressant. Après, donc là, t'as juste un point de montage très, très évident. Ouais, dès qu'on est dans l'eau, ça coupe. Mais c'est une prouesse. Je trouve narrative et technique, cette course-poursuite est vraiment intéressante. Elle est pas très réaliste par rapport au tir des Allemands, mais t'es avec Schofield, t'es avec lui, t'es avec le soldat, tu crains pour sa peau, même si tu sais toujours que forcément il y aura peut-être une bonne fin. Et c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu au final, parce que tu te doutes, mine de rien, qu'il va réussir et qu'il va... Quoi qu'il arrive, il va quand même réussir.
Ouais, mais tu sais quand même, à partir du moment où le second personnage principal, donc le caporal Blake,
meurt
dans à la fin de ce premier tiers, on va dire.
Bah non, moi, à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est bon, il va y arriver. En d'office, il arrive.
Ouais, moi, je me suis dit, il tue son second personnage principal, peut-être qu'il va nous faire un truc, le tuer à la fin, quoi. Un acte de bravoure à la Braveheart.
Freedom! Qui sacrifie?
Sacrifie ou une balle perdue ou tu sais un truc il va se poser auprès de son arbre et bim. Mais non, il y a donc ce saut et ce suivi effectivement que j'ai trouvé compréhensible, hein. C'est vraiment la scène qui peut te flaguer un film parce qu'elle peut être complètement compréhensible. Quand tu vois dans le Hobbit, c'est lequel, la scène où ils sont avec les tonneaux?
C'est le premier.
Bon, alors ça, c'est que l'image de synthèse, c'est incompréhensible, c'est moche, t'as envie de vomir.
Et puis c'est très GoPro aussi.
Ouais. Alors que là, t'as quelque chose de... Et pourtant, t'es dedans, hein, t'as des éclaboussures, t'es vraiment à fond, mais c'est très compréhensible. comme, le, comme un moment, il va se prendre un rocher de dos, t'as mal pour lui, tu le sens.
Ouais, mais là, t'as un plan de montage aussi, tu le vois qu'il prend le dos et puis après on passe
de l'autre côté. Nous, on passe de l'autre côté. Ouais, mais tu te. Enfin, je sais pas, il y a une impact dans cette scène-là qui marche beaucoup mieux. Beaucoup mieux que certaines qu'on a pu voir.
Tu sens que la rivière, elle est pas cool, quoi.
Non, non, putain, et pourtant, ça paraît non plus être le chute du Niagara, mais. Wow.
Mais ouais, tu te dis, putain, la rivière, elle est chaude, quoi.
Il faut tenir un peu
Ouais, je peux tenir un petit peu, écoute.
Et donc là, ouais, le mec, il ne meurt pas, quoi.
C'est il ne meurt pas. Mais après, il peut pas mourir maintenant, tu vois. Après, ce qui est intéressant, c'est que la scène avec la rivière, ce qui est bien aussi, c'est que tu sens la caméra qui est dans l'eau, puis d'un coup, ressort de l'eau et sur la berge, et après, re-rentre dans l'eau. Et donc, techniquement, c'est intéressant de voir le cheminement d'un point de vue topographique, la caméra. Et surtout, cette fin où il arrive, par contre, là où j'ai trouvé cliché, c'est que dès que l'eau se calme, ah oui, entre temps, il y a juste un plan magnifique où il y a une espèce de chute. Et, t'as ce plan fixe.
Dans le tunnel.
Un top shot. Mmh. Vu du dessus ou, non, juste, t'as une chute, tu vois, à la fin de la partie rapide.
Ouais.
Et, donc c'est une chute. Et t'as cette caméra qui reste en l'air. Immobile. Et t'as ce top shot avec des remous d'eau. Et c'est magnifique. C'est beau à crever.
Ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ça.
Et à la fin de cette partie, t'as une partie rapide avec, qui se termine par la chute. Puis après, t'as une partie lente où la caméra bouge, qui va d'un côté de la berge à l'intérieur de la rivière. Et on arrive à la fin où il s'agrippe à une branche. Et là, par de fatigue, il se laisse noyé entre guillemets
quasiment.
Et j'avoue que ça, je trouve ça un peu dispensable, hein. Je trouve
ah
ça
bon
peu, ouais, c'est le fait que il meurt à ce moment, enfin que le suspect de ce qu'il va mourir d'épuisement avant la fin de sa tâche, je trouve ça un peu limite.
Non, moi tu vois, justement, ça m'a permis de me rappeler qu'il est, parce que quand je voyais tout ça, je me dis putain, bah il a beaucoup d'énergie le bonhomme, ça va, en fait il va la finir tranquille la mission, il va taper un sprint et tout ça.
Oui, ok, d'accord.
Et là, ouais, tu comprends bien qu'il est vraiment au bord, il est prêt à crever, quoi. Le mec, il est presque
qu'il est épuisé,
noyé, quoi.
Qu'il est épuisé, qu'il est dans un état second.
Il se rend plus compte.
Intéressant, c'est quand il sort de l'eau, il marche sur
les cadavres empilés, certainement tués. J'arrive pas à voir, j'ai pas réussi à voir si c'était égorgé ou une balle. Bref, ça avait un détail. Mais effectivement, obligé de passer. Mais moi, je me suis fait la réflexion, mais mec, pourquoi t'es pas sorti avant? C'est quand on voit la caméra qui le suit, on voit le côté, on voit des berges où il y a pas de corps, en fait. Tu te dis, lui, tu te décales sur la gauche.
Mais en même temps, je me dis, t'es épuisé, puis.
Mais c'est plus court en plus.
Oui, mais t'es épuisé, t'en peux plus, et peut-être que t'as pas la force de sortir de là. Peut-être que les accotements de la berge sont pas assez efficaces, tu vois. Enfin.
Non, pas d'Oscar.
Non,
écoute, ça, c'est pas crédible.
Mais voilà. Donc, et là, il arrive dans la forêt.
Il pleure,
il en peut plus. Et là, il arrive sur une des grosses scènes émotionnelles, un peu facile.
Ah, le chant, ouais. Oui.
On te met un chant très lancinant, très émotionnel, d'un espèce de, je sais pas.
Alors, on passe de la nuit au jour assez rapidement, là.
Ouais, là, donc le l'aube arrive très rapidement.
Ouais, parce qu'on le suit pas. Il y a pas de coupure, il y a pas de coupure de temporelle à ce moment-là.
Mais l'aube arrive pendant qu'il est dans l'eau, en fait. Enfin, le lever du soleil est là pendant qu'il est dans l'eau.
Ouais, mais quand il sort de l'eau et qu'il arrive au champ, c'est quasiment pas mal.
Le soleil est là, quoi.
Le soleil est là.
Et
très beau chant.
Le chant est beau, mais. Voilà, mais je suis désolé, mais j'ai l'impression d'être un peu le chieur de service et de pas avoir d'émotion. Mais la scène est très émotionnelle. T'as quelque chose, parce que le chant est beau.
Tu sais, ça m'a fait penser à du Brekovitch. T'as ce côté un peu.
Je le connais pas assez, mec.
Comme dans tout film, t'as ce côté un peu. Dans tous ces films, t'as ce côté un peu où. On décolle. T'as des scènes un peu comme ça de surréalisme, de magie, complètement féerique. Et là, c'est un peu ça, quoi. C'est féerique.
T'as dit le mot, un mot magique, c'est féerique.
T'as ça, et tu te dis, mais attends, le mec, il chante, c'est la guerre, ils sont tous là à attendre, et tout ça, ils sont tous là à écouter. Et tu te dis, mais les Allemands qui étaient à quelques.
Sont à quelques kilomètres.
Quelques kilomètres, ou centaines, je sais pas.
Ouais. Centaines de mètres,
ouais. On se déplace bien dans le. On comprend le parcours du mec, mais c'est vrai que niveau distance, après, on a un peu de mal à capter.
À comprendre, ouais.
Mais même malgré ça, cette scène-là, tu la suis, tu l'écoutes, tu la prends.
C'est le moment féerique, en fait, du film. C'est le calme avant la tempête, c'est le moment de reprendre des forces, de sentir en vie, de sentir humain.
Et lui, c'est ce qu'il fait.
Et c'est à ce moment-là, et tu sens qu'il commence à vraiment lâcher prise, en fait.
Ouais.
Et du coup, c'est, voilà, c'est intéressant. Et donc, le chant se termine, et là, en tant que spectateur, t'as envie qu'il crache le morceau, tu vois, qu'il dise, putain, bah, ça y est, putain, merde, ça y est. Tu vas dire, bah non, il faut absolument sauver, et que, en deux secondes, ça va se régler, cette histoire. Et bah non, ça se règle pas. Donc, en fait, il va traverser encore une fois une tranchée, dans un autre décor.
Oui, non, parce qu'il faut dire que la compagnie dans laquelle il tombe,
et la bonne.
Qui chante, c'est la bonne. Ça, c'est chouette aussi.
Il faut que j'aille prévenir la compagnie des mains.
Mais c'est nous voilà. Bingo, les gars.
C'est mais voilà, donc ça, c'était un peu fort de café.
Mais par contre, non, mais.
Mais bon, mais du coup, je fais vraiment le chieur, en fait. Tu vois, chaque fois, je te dis, ah ben non, mais c'est un peu facile. Hein.
Bah ouais, mais en même temps, c'est un peu facile dans le sens où. Et c'est facile. Et il met des petites complications à deux balles où. Hey, Mackenzie, il est où? Il est en première ligne avec la première, première vague qui est partie, un truc comme ça.
Et du coup, après, c'est. Et après, de nouveau, il doit remonter.
Il remonte
toute la tranchée, mais après c'est une tranchée qui est différente visuellement, donc c'est
calcaire. Elle est pas mal d'ailleurs.
Elle est blanche, elle est moins.
Elle est moins crade, ça fait.
Elle est toute fraîche en fait.
Elle va être faite effectivement.
Et t'as vraiment ce côté où d'un côté c'est à angle droit et il y a des deuxièmes vagues de soldats qui attendent et la première vague est vraiment sur le côté de la colline, enfin le début de
prêt à
partir, qui est en pente douce quoi.
Et là lui quand il voit ça il comprend que.
Wow, c'est imminent quoi.
Ouais, je suis vraiment, j'arrive méga tard.
Il arrive ouais. À la bourre et là donc petit à petit il va essayer d'aller en capitaine pour essayer de voir de se rapprocher du poste de commandement et jusqu'au moment arriver devant un capitaine lâche qui en gros doit donner l'ordre d'attaquer. Tu sens que le gars il pète un plomb et là on lui dit écoute là c'est à 300 mètres le poste de commandement mais tu vas jamais y arriver. Et là, ils décident de passer à travers le champ de bataille pour aller directement au.
Et là, c'est The Scene.
Et là, j'avoue, non mais là, c'est franchement, c'est la chorégraphie de cette scène, la puissance émotionnelle de cette course qui au ralenti d'ailleurs, je crois.
Mm-hmm. Non. Elle est pas au ralenti.
Mais t'as l'impression que c'est ralenti en fait.
Bah, moi, je pense que c'est à cause de tous les faits numériques en fait qu'ils foutent.
Ouais.
Je sais pas. Pour moi, il y a. Cette scène-là, effectivement, symboliquement, elle est forte. C'est la scène du film. Mais tu trouves pas qu'elle est quand même trop CGI ?
Oui, parce que les explosions sont très.
Mais du coup, tout le fond, le paysage est trop féerique.
Ouais, il y a un côté féerique en fait qui. Enfin, hors de réalité.
Mais moi, je me demande même, ça n'a pas été fait sur fond vert, ça, limite, cette scène-là, ou en studio, cette scène-là. Ce qui m'étonnerait beaucoup, mais.
Je sais pas si c'est
les effets qui sont mis pour pouvoir montrer toutes ces explosions, toute cette course qu'il est en train de faire effréner pour pouvoir traverser et tous les risques qu'il prend et les mecs qui d'ailleurs c'est pas mal les scènes où vu qu'il traverse en tangente par rapport aux autres et que c'est à ce moment-là l'attaque, tu le vois plusieurs fois se prendre des mecs quoi.
Il se les prend bien, quoi.
Ça vole, quoi. Je trouvais ça bien, quoi. C'est pas comme les mecs qui traversent la route avec plein de voitures et tiens.
Voilà. Et tu sens qu'il y a un impact, quoi, qu'il y a une réalité dans le.
Et puis là, on arrive au but, quoi. C'est en ouais. sens.
C'est la fin. Tu sens que c'est la fin.
Le Graal est au bout, quoi. Graal est au bout. Il sait que.
Il est à côté.
Sa dernière ligne droite et qu'il faut y aller et qu'il en peut plus et que merde, quoi.
Il donne tout. Il donne ses dernières forces.
J'ai loupé la gaffe. Je vais être à la bourre. Il faut que j'y aille.
Et après, il arrive à surfer entre les explosions et il arrive enfin au poste de commandement où forcément il y a deux sbires qui l'empêchent de rentrer. Et par un petit tour de passe-passe, il y a quelqu'un qui détourne l'attention. Il arrive à rentrer à l'intérieur. Et là, on tombe sur le général
Mackenzie,
et là, qui se retourne. Et là, surprise. Et ça, putain, c'est pour moi, c'était une super surprise. Ah, j'ai kiffé le voir ici.
Moi, je savais.
Ah, tu savais, moi, je savais pas. Et j'ai kiffé, c'est Benedict Cumberbatch qui se retourne. La classe. Hyper sévère. qui fait super bien le rôle du général anglais, quoi. Super bien.
Mais il a the gueule, hein.
Ah ouais, mais là,
tout ça, lui, avec sa...
Le petit détail de la cicatrice et la tout.
Il ferait un très bon méchant, hein, s'il le voulait. Juste avec sa gueule comme ça, là, il a un regard noir, hein, c'est fait exprès, avec la casquette qui lui tombe sur les yeux. On voit rien.
D'ailleurs, c'était le méchant dans La colère de Khan, le reboot de Star Trek de J.J. Abrams.
Exact.
C'est lui le méchant.
Ça
allait. Pas le meilleur de. Fin...
C'était un méchant qui avait une origine, quoi.
Qui était, ouais, voilà, qui avait quelque chose
d'humanité.
Ouais. Humanité,
ouais. Bref, donc du coup, ben.
Qu'est-ce qui se passe là?
Field, là tout de suite, il interrompt la réunion, qui est donc la réunion normalement pour lancer la première vague. Bah, qui est déjà lancée en fait. Hein,
ouais, qui est déjà lancée, pour continuer à.
Continuer après à
préparer, à attaquer.
Et donc là, il arrive avec le message où il faut arrêter. On le croit pas,
forcément.
On le dégage. Il insiste, il fait bien insister. Il y a des témoins, il y a d'autres
personnes qui sont dans la salle.
Sergents, colonels, des choses comme ça. Et du coup, il tend le papier, et là, le papier est lu.
Et du coup.
Et là, c'est le gros moment fatidique où tu te dis, est-ce que c'est un enculé?
Ou pas.
Ou pas.
Et finalement, bah, voilà, on comprend que, bah, en fait, Benedict Cumberbatch est raisonnable.
Est raisonnable.
Et donc il stoppe, il dit, il donne l'arrêt de stopper la bataille. Du
le
coup,
soigner.
Là, la tension, le peu de tension qu'il y avait retombe complètement.
Voilà, c'est la fin.
Et tu sens que c'est la fin, tu sens que t'es arrivé au bout de ta mission. T'es pas reposé parce que tu sens qu'il y a encore la dernière soumission.
Il y a
sous-mission, pas sous-mission. Et qui était de trouver le frère de son
coéquipier. Du caporal Blake, donc le sergent Blake. Lieutenant Blake.
Ouais. Et donc voilà, et puis il se dirige vers l'infirmerie, où tu vois, c'est ça, c'est le plan est beau, où tu vois vraiment la fin de la tranchée, puis l'arrivée sur l'air libre, ouais, sur l'espace dégagé, et les tentes, avec moult détails de corps arrachés, de mutilés de guerre vraiment sales.
Et moult tripas
de partout. Et t'as le côté où il demande où se trouve le lieutenant Blake, et on lui répond, mais t'as rien à foutre là, dégage, quoi.
laisse passer les gens, quoi.
Ouais, voilà. Et ça, c'était pas mal, quoi. C'était une côté de réalisme de, oui, bah, la Terre ne s'arrête pas de tourner pour aider le héros, quoi.
Ouais, on s'en fout de ce que tu racontes. Je vais aider les autres, limite, ou laisse passer, quoi. Et
arrive, voilà.
J'ai pas compris comment est-ce qu'il arrive à le trouver, d'ailleurs.
Bah, parce qu'il le reconnaît à sa voix.
Comment il le reconnaît à sa voix?
Parce que c'est la voix de son pote, tu vois.
Parce
que c'est le frère de son pote, tu
vois. Mais qu'est-ce que c'est que ça?
Mais si, je te jure, il le reconnaît à sa voix. Et en fait, parce que du coup, il est caché.
Mais donc, c'est ça.
Des gens qui passent, des infirmiers qui passent. Et d'un coup, on arrive sur le frère de Blake.
Ouais.
Qui est joué par James Madden, Robert.
Oui, celui qui est qui dans joué. Les Game of Thrones.
Ouais. Qui est le grand frère Stark, qui meurt au Red, ouais, la fameux épisode du Red Wedding.
Il me fait penser à l'acteur qui a joué dans Solo, celui qui a joué Solo.
Ah, Hayden, machin. Non, ouais. Ah, putain, je les confonds toujours, putain, de sa mère.
Allez.
Alan Reich.
Oui, c'est ça.
Alan Reich est beaucoup plus et plus ado américain de base, tu vois. Là, Madden, il a un peu plus de classe. Tu sens qu'il a plus de ce côté anglais, tu vois, de jeu en anglaise.
Exact. Richard Madden. C'est ça. Il avait joué dans une série que j'avais vue qui s'appelait. Comment s'appelait cette série? Je me rappelle plus encore. Putain, je suis trop. Ouais, il est dans Rocketman, ce mec-là. Tiens, non. Il est dans il va être dans The Eternals. Oui, ça va être la série qui va arriver.
Ok, je sais pas, je connais pas.
Bodyguard, ouais, une série que j'avais vu avec Ben.
Ah oui, c'est Bodyguard, le truc anglais avec la.
Il joue un flic vraiment droit, mais qui. Pas lui. D'émotion, rien.
C'est
un robot,
lui
quoi.
Dedans. Ah putain, ouais. Mais c'est quoi, j'ai pas reconnu
ce nom. Robot, le mec dans la série, quoi.
Bah écoute,
c'est le personnage.
J'avais regardé un petit peu, je crois que j'ai regardé 4 épisodes, j'ai bien aimé, je sais pas pourquoi j'ai décroché comme un con. Mais je vois, c'était pas mal.
Ouais, c'était pas mal, mais sans plus.
Ouais, bah, oui, ça, c'était pas ouf.
C'était pas le truc ouf. Mais du coup, donc il le trouve, effectivement.
Il le trouve, lui donne les effets personnels de son pote, ses bagues et son dog tag. Et après, la caméra. Bon, la scène est émotionnelle. La scène marche. Madden est bon, Schofield est pas mal. Tu sens qu'il y a beaucoup de non-dits entre les deux personnages. Et ça fonctionne.
Ouais, c'est pas la peine. Il y a pas de plus, quoi. Il lui donne ses affaires personnelles.
Le non-dit est juste bien géré. Et après, la caméra, va.
Ouais, il dit juste, ça a été rapide.
Ouais, voilà. Et puis il demande s'il peut écrire à la mère, à leur mère.
Oui, 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 exact.
Et après, il part à travers les champs et la caméra le suit en, à l'arrière. Mm-hmm. Où il part à travers les champs et il va vers un arbre. Et il va se poser à un arbre et pleurer.
Comme le début du film.
Comme le début du film. Et on la boucle
est bouclée. Et là, on découvre ce qu'il avait dans sa boîte, en fait, qu'il tenait si précieusement depuis le début du film, en fait.
Et là, on voit une photo de sa femme et de sa famille, en fait. Voilà.
En fait, c'est sa mère et ses deux sœurs. C'est dégueulasse. C'est immonde comme fin, en fait.
Mais ouais.
Coucher avec sa mère et...
c'est n'importe, n'importe quoi.
Et non, mais du coup, oui, sa femme et ses deux enfants.
Et du coup, voilà, et ça finit là-dessus.
Donc, full valeur, yes, alors, on a réussi.
Par contre, moi, je tiens à dire sur la séance où on avait deux gars qui parlaient derrière nous. C'était un peu chiant.
Je crois que c'était une fille.
Ah, moi, je crois que c'était deux. Enfin, moi, j'ai cru que c'était deux gars, j'ai pas regardé par tourner. Il y a eu un GSM qui a sonné.
Ah, et putain, ouais, mention, fin, mais merdique, horrible. Moins 1000 de merde.
Ah, vraiment un mauvais moment.
Deux fois.
Ouais, mauvais moment. Et à la fin.
La scène d'émotion avec le frère.
Ouais. Ça sonnait là, c'était chiant. Et surtout aussi la lumière de la salle qui s'allume avant la fin du film.
Ah ouais, l'UGC, toi, l'UGC de Rucker, là, avec la salle Eldorado.
La grande salle.
Terrible, quoi.
Bah, ça, c'était pas cool.
Vraiment quoi. Pas cool, quoi. La lumière qui s'allume avant la fin du film.
Et c'est pas grand chose, ça tient à une minute, quoi.
Même pas, mais c'est trop. Parce que vu ce qu'il montre, ce qu'il veut nous faire comprendre, ce qu'il nous amène, et ce dernière émotion qu'il veut nous laisser. Je trouve que c'est pas cool, ça me mène pour le travail donné, quoi. C'est pas cool. Et donc, ça se finit là-dessus. C'est la boucle est bouclée. On les a découverts au tout début du film, à deux, adossés à un arbre en train de se reposer.
Et là, on le retrouve
tout seul. Et là, on le retrouve tout seul.
Adossé.
Mais avec les photos de sa famille.
Et avec sa famille officielle et pas sa famille de soldats.
Exact.
Voilà. Là, ça finit. Mais, voilà. Et puis quand voilà, ça s'est arrêté, je tiens à dire que quand même t'as quand même un petit pincement au cœur parce que t'es quand même pris par ces histoires, quoi.
Scott Field, on le
et cette petite histoire dans la grande histoire, quoi.
Non, ça fonctionne. Sam Mendes
ça marche,
a bien réussi. Donc bah du coup, au final, ton avis, toi,
bah, au final,
qu'est-ce que tu conseilles?
Bah je le conseille clairement parce que c'est quand même un grand je pense que c'est un monument. Pas monument, c'est un grand film pour le cinéma. Après, personnellement, j'ai des réserves sur justement l'artifice qui était utilisé pour raconter l'histoire. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, la direction photo de Roger Deakins est tellement énorme, les acteurs sont tellement bons que voilà. D'ailleurs, tu sens son côté, son bagage théâtral à
complètement de Sam Mendes, oui.
Tu sens ce côté théâtral. Fond, et ça, moi, j'ai accroché. Donc, moi, je conseille vivement parce que déjà, il a gagné deux Golden Globes. C'est pas pour rien. Et je pense que ça démarre l'année en beauté.
Ouais, c'est on a une sélection de films de début d'année, je pense, qui peut être
qui est assez puissante.
J'ai l'impression qu'on a Bad Box 3, ça va être terrible. Voilà. Ça va être génial. Non, mais du coup, est-ce que tu penses que, tu vois, par exemple, à l'image d'un film comme Gravity, qui a été, qui font partie de ces films qui ont eu des tournants dans le côté technique du cinéma, tu vois, dans les approches.
Alors, il n'a pas une approche technique révolutionnaire. Ouais. Il utilise la technologie à bon escient, mais il n'a pas révolutionné dans le sens que, tu vois, Gravity, il a commencé à faire des box de lumière. Après, il a rotoscopé.
Il a créé des nouveaux systèmes, effectivement.
Voilà. Alors que là, ils ont utilisé du tous, tu vois, existants, mais après ils l'ont bien fait parce que les déplacements de caméra sont juste dingues.
Mais bah oui, complètement. Ça, effectivement, le suivi, tu te demandes vraiment à ras terre des fois, mais vraiment, on est le nez dans la boue, ça te suit.
On est avec eux.
Il y a des moments, effectivement, tu te dis, mais comment ils ont fait ça, quoi? Comment ils ont fait ça? Mais toi, je me suis pas renseigné encore là-dessus, je vais le faire, tiens, tout à l'heure en rentrant. Si effectivement au niveau des moyens techniques, il y a des choses qui ont été créées, est-ce qu'il y a des choses
Ça, je peux pas dire. Donc, je vais pas dire de conneries, je sais pas. Mais j'ai vu passer vite fait un making of, mais j'ai pas trop regardé. Je voulais pas trop voir d'images avant de voir le film. Mais
c'est vrai qu'à l'avoir vu comme ça, on serait pas forcément, pour avoir vu d'autres films faux plan séquence comme ça, on pourrait se dire, il y a peut-être pas, c'est beau, c'est vrai que c'est dingue, il y a des moments, what the fuck, mais est-ce que vraiment il y a quelque chose qui est révolutionnaire?
Non, révolutionnaire, non, mais peut-être après dans l'utilisation de la technique, il y a un côté révolutionnaire.
Ouais.
La maestria de l'utilisation de la technique.
Non, c'est
et toi, du coup, au final, qu'est-ce que t'as pensé?
Bah, de même, hein, moi, ça va être, je le conseille, hein, pour des films à voir en ces débuts d'année 2020. On a un très chouette film qui à l'instar de prendre un thème bien précis comme la guerre qui peut être mais qui peut aussi repousser pas mal de gens, même malgré ça, je pense que même si vous aimez pas forcément les films de guerre, ça peut être quand même pas mal à voir si vous aimez bien du coup un peu le côté technique ou les choses comme ça, les performances un peu de réalisation. Là, on est vraiment face à quelque chose. Oui, je pense, on n'est pas révolutionnaire, mais putain, qu'est-ce qu'on en prend?
On prend plein la gueule.
On est bluffé, et ébloui aussi parce qu'on en prend plein les yeux et pas plein les yeux, plein ta face, et ça te fait pleurer.
C'est pas grossier.
Ouais, t'en pleures pas. C'est pas comme le dernier Star Wars, par exemple.
Non, c'est pas grossier.
Ça, on n'est pas dans la Didi Abrams où c'est bam, tiens, je t'en mets plein. On est plus subtil,
sur un vrai travail, un vrai auteur et un vrai point de vue.
Je pense, ouais.
Ouais, ok. Bah écoute. Bah
donc voilà. On le conseille tous les deux.
Ouais, tout à fait. Allez le voir au cinéma. Et nous, on se retrouve bientôt pour Bad Boys 3 et aussi le Top Flop qui va arriver bientôt.
Le Top Flop,
ouais. 2019.
Exact. Voilà.
Allez, merci.
Okay. Bah, juste une question, ouais. Est-ce qu'on peut nous retrouver
Merci, heureusement que tu es là. Alors, sur toutes les plateformes possibles et inimaginables.
TF1, France 2, France 3, Canal+. Ouais,
voilà, tout ça. Non, iTunes, Spotify, Google Podcast. On remercie énormément aussi ceux qui nous écoutent par badgeek.fr.
Ouais, merci.
On fait un
merci
gros big beaucoup. Up. Et voilà.
Qui nous écoute, on ne sait pas vraiment, mais qui nous télécharge.
Oui, voilà. Oui.
Merci beaucoup.
En tout cas, on se revoit bientôt. Pour de nouvelles aventures.
Ouais, de même. Allez. Aller au cinéma.
Ouais, ciao, à plus.
Ciao.